France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Liliane Selem et bonjour Bruno Doucet. Je suis tombée amoureuse des sonnets de l'amour obscur de Lorca, qui me bouleverse littéralement, parce que ça parle d'un amour tragique, contrarié, c'est à la fois très noir et très incandescent.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Des poèmes d'amour, aujourd'hui dans votre book club, Les sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca, publié pour la première fois en espagnol en 1983, 47 ans après l'assassinat du poète et 8 ans après la mort du général Franco. Publication clandestine, quasi confidentielle, encre rouge sur papier rosé, qui signale leur date d'écriture 1935-1936. On les croyait perdus, des rumeurs circulaient, voilà qu'ils confirmaient leur existence et leur beauté. Les éditions Alia leur rend cette unité en publiant une édition bilingue augmentée de dessins de l'auteur. Nous en parlons avec Lynn Amselem qui les a traduits et préface l'ouvrage et avec Bruno Doucet qui les connaît et qui les aime. Vers 15h50, première chronique de nouvelle résidente au Book Club. L'autrice Diati Diallo ouvre pour nous un cycle de lecture et de relecture en écho avec l'actu. Et en fin d'émission, nous jouons à trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Il y a une relation ardente entre la musique et Lorca. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Lynn Amselem.
Bonjour Marie.
Vous traduisez les sonnets de l'amour obscur pour les éditions Alia. Vous signez donc cette préface qui en raconte l'histoire fascinante. On y viendra tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous pour les évoquer. C'est une œuvre que vous connaissez très bien. Vous aviez aussi traduit Jeu et théorie du Duende. C'était aux éditions Alia. Bonjour Bruno Doucet.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous depuis la Crète. Vous êtes éditeur de poésie, auteur vous-même. Vous connaissez bien l'œuvre de Federico Garcia Lorca pour avoir plusieurs fois écrit dessus. En 2010, vous aviez publié une biographie romancée et aussi un oratorio pour Federico Garcia Lorca. Et puis en 2020, votre maison publiait Une colombe si cruelle, un recueil de poèmes en prose qui contenait de multiples textes alors inédits de Lorca dans une traduction de Carole Filière. Bienvenue à vous dans le Book Club. Ici, tout commence toujours par un questionnaire lecture. On fait le portrait de nos invités d'abord en tant que lectrice et en tant que lecteur. Ça va être centré cette fois-ci sur l'œuvre de Lorca. Est-ce que vous vous souvenez, Lynn Amselem, quand est-ce que vous rencontrez cette œuvre et par quel texte ?
Oui, oui, je me souviens très bien. C'était au collège. J'ai commencé l'étude de l'espagnol vers 13 ans. Mais je parlais espagnol chez moi déjà. Mais c'était un espagnol différent. Je parlais judéo-espagnol du Maroc. Et donc, on avait une façon de parler, des expressions différentes. Et j'étais déjà prévenue par ma sœur, qui avait déjà étudié l'espagnol, de ces différences, de cet espagnol pointu et qui était différent du nôtre. Et quand j'ai commencé à étudier, quand j'ai regardé les livres, il y avait beaucoup de poésie, il y avait beaucoup de textes littéraires dans les même en première année. C'était pas comme vous voyez en anglais, Brian is in the kitchen. C'était pas du tout ça.
Vous commencez par du sérieux direct.
Voilà, de la poésie. Et puis bon, il y avait le contexte aussi. Hein, c'était à la fin des années 70. Beaucoup d'hispanistes étaient fils de républicains. Donc les textes, les manuels étaient teintés aussi d'éléments politiques. Hein. On avait, je sais pas moi, Gabriel Celaya, des choses comme ça. La poésie est une arme chargée de futur, c'est ce qu'on lisait. On apprenait de la poésie tout de suite.
Intense pour des ados.
Oui, mais on se rend compte de rien. Hein. j'avais des profs, une prof d'italien qui nous avait appris Bella Ciao, on comprenait, on se rendait pas compte.
Ça sème des choses, peut-être. Non, vous croyez pas?
Non, on comprenait rien. C'est bien après que je me suis rendu compte de ce qu'elle voulait dire.
Alors, qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce qui vous touche à ce moment-là?
Alors, justement, donc là, dans cette différence avec l'espagnol de chez moi et l'espagnol du livre et de la prof, Lorca, c'était quand même différent. Il y avait des choses qui nous ressemblaient. L'Andalousie, le mélange entre quelque chose de langage populaire, voyez. Je me souviens du premier texte qui m'avait frappé, c'était C'était un dialogue entre un gitan et un militaire. Et on évoquait l'âme de café au lait de ce militaire des éléments, des nombres, des choses qui ressemblaient à la culture populaire de mes parents et qui résonnaient. Et ensuite, j'ai continué à lire Lorca. J'ai fait des études d'espagnol et j'ai vu de très nombreuses similitudes entre justement, cette langue populaire, la langue andalouse, des traditions, par exemple le romancero, cette poésie espagnole héritée du Moyen-Âge et qui a continué à vivre, à être chantée au XVIe siècle, au XVIIe siècle, et qui a été renouvelée et reprise par Lorca, que j'ai traduite aussi le recueil Romancero Gitano en espagnol, que j'ai traduit comme Complainte gitane pour les éditions Alia aussi. Ça, c'est une poésie qui a été conservée en partie dans les campagnes en Espagne, mais beaucoup aussi par les Juifs qui ont été expulsés et qui ont conservé cette culture depuis le XVe siècle. Donc, c'était ma culture. Parce que Lorca conserve à la fois des éléments populaires et des éléments savants, de la tradition et de la modernité. Et donc, moi, dans mon parcours, je suis partie d'une culture plutôt archaïque et populaire pour aller vers une modernité, pour conquérir cette modernité. Et Lorca, lui, comme Andalou, était très ancré aussi dans cette très vaste tradition savante et populaire, et andalouse. Et il s'est retrouvé en contact avec des gens qui l'ont propulsé vers la modernité, dont Dali, par exemple.
À ce moment-là, dans votre parcours, pour vous prendre encore jeune lectrice, Lina Anselem, ça vous permet aussi de poser des questions, de vous retourner vers cette culture-là, où c'est plutôt c'est vivant à la maison. Et comment se fait l'aller-retour entre votre découverte de Lorca et la culture dans laquelle vous baignez?
Alors c'était compliqué parce que moi, en lisant Lorca, j'ai reconnu ce que nous étions. Par exemple, la savetière prodigieuse, vous voyez, donc mon père était cordonnier. Donc il y a cette culture, les voisines qui entrent, qui sortent, qui parlent, c'était chez moi. Donc moi, je reconnaissais ça et j'avais l'impression qu'il nous connaissait.
Mais
c'était très proche. Mais quand je l'ai lu et quand je l'ai voulu le lire à ma mère ne comprenait pas. Enfin, ma mère ne trouvait aucun intérêt à ça. Soit parce que c'était trop proche d'elle, aucun intérêt, des voisines qui viennent, qui parlent, ou parce que les éléments de modernité...
Tordaient trop quelque chose.
Voilà. Vous voyez, donc moi, j'avais déjà le filtre de la littérature et je pouvais entrer dedans. Mais j'étais entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle Lorca est...
Le bon endroit pour vous, finalement.
Exactement. Ouais. Exactement.
Ouais, c'était ça, le mélange exact là où vous vous trouviez.
Ça rassemble les deux.
Vous avez donc cheminé ensuite avec lui, puisque vous dites que vous l'avez plusieurs fois traduit, en effet, puis qu'aujourd'hui, c'est à l'occasion d'une nouvelle traduction des Sonnets de l'amour obscur qu'on vous reçoit. Ça veut dire qu'il ne vous quitte pas? Ça veut dire que c'est une lecture qui est comme permanente, quoi? Sans être quotidienne, j'entends, mais vous voyez, un espèce d'auteur qui ne vous aurait pas quitté?
Oui, oui. Et puis bon, dans ma vie, ils sont théâtre aussi. Puis je l'enseigne aussi à l'université où je travaille. Et donc, il y a eu des grands moments de ma vie qui ont été marqués par des rencontres avec Lorca, par exemple. J'ai écrit d'ailleurs un livre là-dessus. Bon, c'est une autre histoire.
Maintenant, allons-y.
C'est un livre qui s'appelle « À la rencontre de Federico García Lorca », qui répond à peu près à cette question. C'est un livre que j'ai publié c'était en 2013 ou 2014. Et donc, qui revient sur une dizaine d'étapes.
Importantes.
Ouais. Importantes. Par exemple, vous voyez, il y a un théâtre qui n'a jamais été mis en scène du vivant de Lorca, par exemple un texte qui s'appelle Le Public, qui est très inspiré de Shakespeare, où où il rompt le quatrième mur, où c'est proche aussi de Pirandello, et où là il y a des évocations, c'est un théâtre qui brise l'anecdote et qui est dans avec des scènes très intenses, allégoriques, ou avec une très forte tension poétique, mais plus morcelé, plus moderne, où la question par exemple de l'homosexualité est montrée plus clairement. Donc le public, ou alors une autre pièce qui s'appelle Así que pasen cinco años, c'est de théâtre irreprésentable. Et ça, je l'ai rencontré plus tard dans ma vie, mais c'est associé dans mon esprit par exemple à l'inauguration du théâtre de la Colline.
À Paris, dans le 20e.
Voilà, Lavelli qui le dirigeait à l'époque, dans sa première saison, a présenté le public de Lorca. Vous voyez, c'est les années 80 où il y avait cette exaltation. Et donc, dans ma vie, il y a eu plusieurs rencontres de ce type-là. Et c'est exactement ce que vous dites. Ce n'est pas une lecture permanente, mais c'est un accompagnement, parce que c'est très proche de moi et de cette tension entre tradition et modernité.
Bah, trop beau, il faut lire ce livre-là, du coup, en parallèle des traductions publiées aux éditions Alia. Bruno Doucet, même question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez par quel texte vous rencontrez l'œuvre de Federico Garcia Lorca et qu'est-ce que ça vous fait ?
Oui, alors pour moi aussi, je vais vous emmener au milieu des années 70, au début de mon adolescence, dans mes années de collège. Mon père menuisier a comme collègue des Portugais, des Espagnols. Mes copains au lycée parfois sont chiliens, puisqu'ils ont fui avec leurs parents la dictature. Et je découvre en fait Lorca par un ouvrage de Pierre Segers qui s'intitule « La résistance et ses poètes ». J'ai 15 ans, 16 ans peut-être. Et je découvre Lorca en fait par l'histoire de sa disparition prématurée en août 36. Donc le premier contact avec Lorca, c'est
l'histoire de sa mort.
C'est un contact biographique. Et je comprends très vite que pour les poètes de cette génération, la Seconde Guerre mondiale ne commence pas en septembre 1939, mais en août 36 avec la mort de Lorca.
Alors peut-être et on peut rappeler justement, c'est l'occasion de dire quelques mots de la mort de Lorca, puisque c'est comme ça que vous entrez en contact avec cette œuvre et avec cet homme, avec ce nom presque.
Il est exécuté dans le ravin de Wisnar en août 1936, le 16 août 36, et il est en quelque sorte la première victime expiatoire du franquisme, avant même l'arrivée de Franco au pouvoir. Donc moi je découvre cela, et puis je comprends qu'il y a eu autour de la mort de Lorca une cristallisation extraordinaire, une espèce d'international de la solidarité poétique, artistique, et que des artistes de toute origine, de tout pays, vont s'unir pour former cette grande chaîne de solidarité autour de la dépouille de Lorca. J'allais dire de la poésie de Jean Val à celle de René Char, d'Éluard à Neruda, de l'Espagne à la Russie d'Eli Ehrenburg. Les poètes sont unis autour de la disparition de Lorca, qui devient une figure absolument emblématique. Donc moi j'entre avec cette histoire dans l'œuvre de Lorca, ça me donne envie d'étudier l'espagnol, que je prends comme troisième langue en seconde, et là je découvre la poésie de Lorca. Et le premier poème découvert, étudié, c'est la romance de la Luna Luna. Voilà, donc c'est...
Qu'est-ce qui vous accroche après avoir été accroché par la figure en fait de ce poète assassiné, et puis aussi un régime qui interdit totalement ses œuvres. Qu'est-ce qui dans la poésie même et le poème que vous venez de citer, Bruno Doucet, vous touche à ce moment-là?
Oui, parce que j'entre d'abord par le politique et puis ensuite je me retrouve vraiment dans la poésie la plus belle, la plus pure de Lorca, avec cette tonalité élégiaque, l'évocation de la nature, de la lune, cette dimension du mystère. Et puis je comprends au fond que les grandes poésies du monde sont marquées par ce double saut, cette double identité du lyrisme et de l'engagement. C'est cela qui m'est donné à l'âge de 16 ans à peu près. Donc c'est quelque chose de très précieux et je ne me suis jamais départi de cette idée. D'un côté, il y a le lyrisme, la transformation d'un cri en chant, comme le disait Valérie. Et puis de l'autre, il y a la force des valeurs collectives et cet engagement, cette capacité de faire entendre la voix du monde, le chant du monde. Et les deux choses me sont données en même temps, et y compris le Lorca militant engagé, celui qui dira à partir de la crise de 29 qu'il est du parti des pauvres, des vrais pauvres, et qui ira avec une lucidité totale vers le bûcher qui va l'embraser vers cette mort horrible dans le Barranco de Viznar en août 1936.
Même question que pour Lynn Amselem. Est-ce que c'est une lecture qui suit votre vie ou que votre vie suit en des étapes importantes, Bruno Doucet?
Alors, pour moi, Lorca est un peu comme les années bissextiles. Il revient régulièrement dans ma vie, mais pas au quotidien. Et chaque fois qu'il revient dans ma vie, il apporte quelque chose de nouveau. À l'image de l'émission que nous sommes en train de faire.
Voyez. Par exemple, il y a une parution dans votre maison d'édition qui s'appelle Une colombe si cruelle, poème en prose et autres textes. Bon, c'est pas l'objet de l'émission, mais ça veut dire que, par exemple, ça a été un moment de recontact entre vous et Federico Garcia Lorca?
Absolument, et j'ai découvert à cette occasion des textes tout à fait étonnants que je ne connaissais pas. J'en connaissais quelques-uns par la traduction d'André Bellamiche dans la Pléiade, et puis je découvre des inédits, des petites proses, des textes caustiques, des contes, des nouvelles, peu importe les classifications, hein, mais des textes finalement dans lesquels Lorca va développer une esthétique de la cruauté, des choses très décalées. Il va vraiment creuser une réflexion sur l'antipoétique. Il va essayer de briser les liens logiques entre les objets, entre les espèces, etc. Et va nous entraîner dans un univers qui est assez surréaliste, et on y reviendra peut-être, mais qui est né aussi de sa rencontre avec Salvador Dali. À chaque fois, Lorca amène dans ma vie quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment merveilleux.
On va reparler en effet de cette rencontre importante avec Dali. Lynn Amselem parlait de son théâtre, justement dans une autre archive qu'on n'entendra pas, mais qu'on a écouté nous tout à l'heure pour préparer l'émission. Dali regrette que cette œuvre théâtrale ait été comme fauchée en plein vol par la mort de Lorca. Est-ce que c'est aussi un pan de son œuvre qui vous intéresse, ou vous êtes vraiment resté du côté des petites proses, de la prose et de la poésie, Bruno Doucet?
Si, un pan qui m'intéresse, et pour le théâtre que je connais moins, mais j'ai la même approche, une approche politique et littéraire. Politique parce qu'il y a ce théâtre ambulant que Lorca va créer et que je trouve absolument formidable, cette façon dont il va se promener dans toute l'Espagne pour faire découvrir les richesses insoupçonnées des grandes traditions théâtrales populaires et non populaires, hein, mais à des gens qui n'ont pas d'accès à la culture. Donc je trouve ça magnifique, et ça rejoint complètement ma conception de l'édition, de la littérature et de la transmission, qui est tellement importante. Et puis en même temps, ce théâtre, il est fabuleux, et lui aussi vient me questionner. Il y a quelques années, par exemple, l'Opéra de Paris m'a demandé d'écrire un texte pour une représentation de la maison de Bernarda de Alba. Et voilà, c'était quelque chose que je n'attendais pas, qui est arrivé aussi un petit peu comme un miracle de la vie.
On va continuer de parler de Federico Garcia Lorca et précisément de ses sonnets de l'amour obscur parus aux éditions Alia, juste après ce morceau où l'on entend les arrangements de Federico Garcia Lorca, qui était aussi musicien, arrangement d'un air ancien, ici interprété par Teresa Berganza, accompagné par Narciso Yepes à la guitare.
Tres morillos se enamoran en Jaén, Axa y Fátima y Marín. Tres morillos tan dorridas iban a coger olivas, y hallaban las cogidas en Jaén, Axa y Fátima y Marín.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Pendant longtemps, on a seulement entendu parler des sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca. Des rumeurs en connaissaient l'existence. Une édition pirate les avait fait circuler bien des années après l'assassinat du poète en 1936. Et l'on savait plus ou moins que le terme obscurité renvoyait à l'homosexualité, illégale à l'époque du poète. Lorca donnait ce conseil en matière de poésie. N'explique absolument rien et ne rougis jamais de ton tremblement identique face au papillon et à l'hippopotame. Là où se dresse la rose hermétique de la croisée des chemins, là, tu dois chanter ton chant vertical et ferme. Les éditions Alia publient les 11 sonnets rendus à cette forme d'unité en version bilingue et qui dialoguent avec les dessins de l'auteur, non comme des illustrations, mais comme des résonances, des contrepoints sensibles pour reprendre les termes de votre préface, Lynn Anselem. C'est vous qui signez cette traduction inédite et on en parle avec un autre connaisseur de l'œuvre, Bruno Doucet. Dans cette préface qui est vraiment fascinante, vous revenez sur l'aventure éditoriale de ces sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca. Est-ce que vous voulez bien, Lynn Anselem, nous raconter alors l'histoire de cette aventure des éditions de ces poèmes?
Alors, c'est une très belle et très poignante aventure, effectivement. Donc, à la mort de Lorca, on savait qu'il avait publié qu'il avait écrit des sonnets. Les sonnets avaient circulé. Neruda en a parlé dans les années 60. Vicente Alessandri, qui est un autre poète de la génération de 27, en a parlé aussi. Tout le monde savait qu'il était en train d'écrire ses sonnets et on a des témoignages qui disent « La dernière fois que je l'ai vu, il m'a récité par cœur des sonnets extraordinairement beaux. » On n'en avait pas trace. Dans les années 40, on en a publié un, deux, par-ci, par-là.
Mais même à sa mort, quand j'imagine on récupère des manuscrits, oui, des archives, etc., il n'y a pas de trace des sonnets?
Si. Mais la famille de Lorca, ce qui s'est passé, c'est quand il est mort. Il s'est réfugié à Grenade chez Luis Rosales, chez un homme, qui, à la fin, quand il a été arrêté et assassiné, a rendu tous les papiers à la famille. C'était tragique parce que son beau-frère aussi était mort en même temps. En tout cas, le père, la famille de Lorca a mis tous ses manuscrits dans un coffre-fort et ils sont ensuite partis aux États-Unis. Donc, les documents sont restés là et on savait que ces textes existaient. D'autres, petit à petit, d'autres textes inédits ont été publiés lentement au fil des années, mais de ces sonnets, on n'avait pas de nouvelles. On on ne savait pas exactement quel était leur nombre. Certains disaient une dizaine, d'autres parlaient de beaucoup plus, mais parce que on ne savait pas quelle était la dimension et quel était le projet véritable de Lorca. On savait que c'était des poèmes d'amour, mais il avait écrit d'autres sonnets, des sonnets de circonstances auparavant. On ne savait pas de quoi il s'agissait et combien il en restait. Les choses en sont restées là pendant très longtemps. Je vous dis, dans les années 50, une revue en Amérique en a publié un, deux, et c'était tout. Après, dans les années 80, il y a une petite plaquette avec cinq sonnets qui ont été publiés, mais pour une exposition, c'était une petite plaquette excessivement chère, c'est tout. Et puis, tout à coup, en 1981, paraissent la première édition de la Pléiade de Lorca en France et en français. Donc c'est Bellamiche qui a publié les 11 sonnets.
Mais il les tient d'où?
Ben, voilà.
On ne sait pas.
Si, on sait. Donc, il avait publié beaucoup d'inédits. Donc, c'est 11 sonnets qu'il publie avec, qu'il traduit en leur donnant une forme. Et puis, il dit, bon, mais comme pour publier de la poésie, j'ai dû modifier les choses, il fait aussi une traduction littérale des sonnets. Donc, on était très proches. Enfin, on savait qu'il avait eu les manuscrits, mais on ne les avait pas. Donc, branle-bas de combat. Des hispanistes un peu du monde entier se sont rassemblés et ils se sont débrouillés pour obtenir les originaux. Bon, on sait plus ou moins de qui il s'agissait.
Ok.
Et donc, bon, d'accord, passons.
En espagnol alors. Il faut attendre 83.
Ils récupèrent les originaux et ils les publient. Donc, édition clandestine dont vous avez parlé en début d'émission. Et donc, très peu d'exemplaires qui sont envoyés, effectivement, à la famille pour les obliger à les publier. Mais, et donc, très vite, il y a eu une autre édition pirate. Et donc, là, la famille s'est trouvée obligée de les publier, les 11. Et les 11 sonnets ont été publiés en 1984 dans le journal ABC, dans le supplément littéraire d'ABC, qui est un journal très conservateur. Étonnant choix, mais en même temps, c'est un très bon supplément littéraire, avec... et là, on perçoit, parce qu'il y a tout un dossier autour, où on perçoit un mélange de colère, de douleur aussi. De douleur parce que Lorca, enfin, on ne sait pas exactement pour quelle raison il a été assassiné. Il y a tout un ensemble de choses.
C'est dans le dossier qui accompagne les poèmes qu'on perçoit cette douleur ?
On perçoit très fortement la douleur, oui. Parce que c'est la famille, vous voyez, c'est la...
Mais qui écrit ce dossier ?
Ah, le dossier, c'est les ayants droit, quoi. Les ayants droit et des personnes de leur entourage. Mais il faut bien comprendre aussi, et moi je le comprends de tout cœur, qu'il y a une douleur à publier ces textes. Après, ça pose la question de à qui appartiennent les textes d'un auteur. Est-ce que les lecteurs ont tous les droits ou est-ce que la famille, quand c'est très douloureux... Et puis, il faut voir comment le franquisme a été résolu ou pas en Espagne. Mmh. Est-ce que la famille peut ou ne peut pas conserver des textes ? Parce qu'il y a la question de l'homosexualité que Lorca ne manifeste pas beaucoup dans sa poésie et même dans son théâtre. Quand je vous parlais du public, par exemple, c'est très voilé, c'est métaphorique toujours. Donc là, même dans ces poèmes qui sont un ensemble de poèmes adressés à un homme, et on peut imaginer que c'est adressé à un homme parce qu'il y a un adjectif, mais on dit le poète s'adresse à son amour. Mmh. C'est au masculin, mais...
Ça pourrait très bien être son amour à destination d'une femme.
Mmh. Exactement, exactement. Mais quand même, la famille...
Mais la famille sait déjà. La famille sait, j'imagine, que ces poèmes sont à destination d'un homme. Et donc ça a encore ce caractère-là, difficile à publier aussi pour cette raison-là.
Parce que l'homosexualité était interdite, parce que c'était douloureux, parce que Lorca a pu être insulté. Et comment ne pas comprendre ? C'était l'oncle, le frère, je veux dire, les gens étaient encore vivants. Mmh. C'était très récent et très douloureux. Mais donc on perçoit ça, cette douleur, dans le dossier qui accompagne. Mais, et donc la question de l'adjectif obscur, puisque on savait que Lorca voulait publier un recueil qu'il avait appelé soit... sonnet amoureux, soit sonnet tout court, on ne sait pas trop, ou jardin de sonnets, un peu comme au XVIe siècle, on parlait de bouquets ou de jardins pour parler de recueils de poésie. Et donc,
l'adjectif obscur,
oui. Le titre du recueil a été controversé, mais en fin de compte, comme tout le monde en a parlé de cette façon-là...
C'est ainsi qu'ils ont été titrés.
Exactement. Mmh. Exactement.
Le geste que font les éditions Alia en publiant dans la version bilingue, il a de nouveau que c'est votre traduction, Alina Mselem, mais aussi qu'ils existent dans cette unité-là. C'est ça qui se passe.
Alors, c'est ce que nous avons voulu. Parce que, en fait, comme il y a un très petit nombre de textes, il n'y en a que 11, la question se pose, vraiment, la question de la composition d'un livre, de la construction, de l'idée du livre. Quand je suis allée voir Gérard Bérébi des éditions Alia en lui parlant de ses textes, il m'a dit oui, qu'il était que ça lui plaisait beaucoup et qu'il fallait trouver une solution. Et donc nous avons parlé de dessin, Et moi, j'ai tout de suite pensé à ces portraits doubles. Parce que je préférais, il y a eu plusieurs éditions, par exemple avec El Divan del Tamarit, soit des livres, des poèmes qui ont été publiés à peu près à la même époque, dans les années 35-36, juste avant sa mort, soit d'autres sonnets, pour faire cet ensemble de sonnets, ou soit un recueil thématique de poèmes amoureux, pour combler disons,
le fait que c'est 11 poèmes et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Bah, même quand c'est bilingue, ça fait 24 pages, ça ne fait pas grand-chose. Donc on a associer ces portraits doubles. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé que ces portraits doubles étaient comme une signature de Lorca. Lorca, quand il donnait beaucoup de ses dessins. Vous voyez, il a dessiné beaucoup depuis des costumes, des marionnettes, etc. Et puis il les offrait, ou même quand il offrait un livre. Sa dédicace était souvent dessinée. Et il y avait souvent ces portraits doubles, qui ont une très grande richesse et une très grande variété, qui peuvent être comme deux masques de théâtre, comme un peu, vous voyez, tragédie, comédie, soit
un entrelacement amoureux aussi.
Exactement, un baiser, oui. Soit quelque chose de plus décoratif, soit une... Enfin, vous voyez, c'est très présent et c'est récurrent dans son œuvre picturale. Et c'était aussi une façon de proposer dans cette association une autre dimension, une nouvelle lecture des sonnets par cette présence des dessins.
Alors on y va, et on y va côté texte, avec, si vous voulez bien, Lina Amselem, une lecture d'abord en espagnol de ce poème dont je dis le titre en français. Donc une strophe pour vous en espagnol, et puis je vais lire votre traduction. L'amour dort dans le cœur du poète.
El amor duerme en el pecho del poeta. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero.
L'amour dort dans le cœur du poète. Jamais tu ne sauras combien je t'aime, car tu dors en moi et tu es endormi. Moi, je te cache en pleurant, poursuivi par l'acier pénétrant qu'une voix jette. Norme, agitant l'astre comme la chair, a transpercé mon cœur endolori. Et les paroles troubles ont aussi mordu aux ailes ton esprit sévère. Des gens groupés sautent dans les jardins, attendant ton corps et mon agonie en chevaux de lumière et au vert craint. Mais dors encore, ô amour de ma vie, dans les violons, entends, mon sang s'éreinte. C'est que toujours, tu sais, on nous épie. On entend donc dans la version bilingue le poème, le sonnet « L'amour dort dans le cœur du poète ». Bruno Doucet, vous qui nous écoutez depuis la Crète, qu'est-ce qu'on peut dire de la musicalité particulière et de cette forme spécifique que choisit Federico Garcia Lorca, qui est le sonnet ?
Bah écoutez, j'ai d'abord envie de vous dire combien je suis heureux de voir ces poèmes publiés. Ils sont magnifiques. Il faut se souvenir, pour mettre les choses en perspective, que pendant plusieurs décennies, la façon dont l'œuvre de Lorca a été occultée sous le franquisme, et on a même tué les circonstances, les circonstances de sa mort. Hein. Donc c'est une façon de dire que le travail éditorial fait par les éditions Alia, notamment, est un travail tout à fait essentiel. Et je trouve que ce livre, il est merveilleusement réussi parce qu'il a placé ses 11 sonnets, ses 11 textes. Voilà, c'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup. Ils les ont placés dans un écrin qui est vraiment parfaitement constitué. Et puis, il y a ces portraits doubles auxquels répondent les doubles portes des poèmes, puisqu'on peut entrer dans les textes soit par l'espagnol en italique, soit par le français en romain. On peut entendre les deux langues, donc je trouve que c'est absolument magnifique. Et puis, il y a le très beau travail de Lynn Amselem, qui a cherché à faire entendre les lignes mélodiques J'allais dire presque les harmoniques de la langue espagnole dans sa traduction. Alors, non seulement elle est fidèle au sens de l'œuvre, mais elle est fidèle aussi à sa musicalité et puis à cette espèce de, je dirais, de clarté un peu obscure qui émane de ses poèmes, que l'on saisit et en même temps qui résiste. C'est un peu une écriture au secret, hein. C'est sans doute ce qu'a voulu Lorca, voilà, pour évoquer probablement son homosexualité. Donc je trouve que tout ça est vraiment très très beau. Puis j'ai envie d'ajouter aussi une chose, si vous le permettez, c'est que jusqu'à présent, pendant très longtemps, les traducteurs de Lorca en français étaient des hommes. Souvenez-vous, ça commence avec des gens comme Guy Lévis-Mano, Supervielle, Louis Parot, Jean Cassou, des poètes, André Bellamiche, Claude Couffon, dont j'ai été très proche à la fin de sa vie. Mais ce sont vraiment des hommes, et ce sont des hommes qui nous parlent au fond de la fraternité des poètes. Ce sont eux aussi des écrivains engagés. Mais évidemment, ça oriente l'œuvre de Lorca dans une certaine direction. Et puis voici qu'aujourd'hui, des voix de femmes font entendre Lorca, comme vous l'avez fait dans ce studio, mais aussi par des traductions. Alors vous avez cité le travail de Carole Filière, et puis il y a le très beau travail de Lynn, ou de Daniel Fogeras, ou d'autres femmes. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui est un peu nouveau, qui est même très nouveau, et qui est historique dans la manière de renouveler l'œuvre de ce grand poète. Et sans doute, ces traductrices sont-elles plus sensibles aux lignes mélodiques?
Alors justement, là-dessus, sur la question de la forme du sonnet, des lignes mélodiques, de la rythmique, parce que c'est une forme très, très stricte, on peut dire, Lynn Amselem, quels sont les enjeux de traduction?
Alors le...
Peut-être on rappelle deux secondes ce que c'est qu'un sonnet?
Alors un sonnet, c'est quelque chose qui sonne, justement, c'est très musical. C'est une forme poétique très exigeante, qui est arrivée partout en Europe à partir de l'Italie. C'était inventé en Italie, c'est arrivé au XVIe siècle, ça s'est surtout développé au XVIe siècle. Et bon, c'était antérieur, hein, mais ça s'est développé au XVIe siècle. C'est arrivé par des ambassadeurs, etc. Donc c'était vraiment comme un morceau de bravoure pour les poètes. Donc là, la forme parfaite, le petit bijou, le diamant. C'est en France et en Espagne, c'est 2 quatrains, 2 tercets, donc 2 fois 4 et 2 fois 3, donc ça fait 14 vers. En Angleterre, c'est 3 fois 4 plus 2, un distique à la fin. Et ce sont des poèmes où on montre la perfection de son esprit et ou d'un sentiment, voyez. Donc on peut par exemple poser des questions dans les deux quatrains. Et puis après, les tercets donnent une solution ou au contraire une pirouette. Vous voyez, c'est...
Mais c'est cette idée de la perfection de l'art poétique qui fait choisir à Lorca cette forme du sonnet pour dire son amour, dont on imagine qu'il le destine à un homme dont on n'a pas dit le nom d'ailleurs. Mais...
Ah si, mais oui, on peut le dire. Oui. Alors non, mais avant de continuer, je voulais d'abord remercier beaucoup Bruno pour tout ce qu'il a.
Mais vous
qu'il
parlerez a hors antenne pour vous remercier les uns les autres.
D'accord. Oui. Alors le sonnet. Alors Lorca avait après le romancero gitano, après les complaintes gitanes, Lorca avait reçu une lettre de Dalí qui était assez vache. Mais il faut dire que Dalí était souvent vache. Il avait écrit une lettre en lui disant « Oui, c'est bien ça, mais il faut te jeter dans le vide, il faut arrêter la rime, etc. » Et donc Lorca est parti après, en 29, est parti à New York. Il a fait un premier voyage aux États-Unis. Et donc là... C'est là qu'il s'est mis à écrire autrement et qu'il a arrêté la rime et qu'il a pu se libérer et écrire des choses plus libres aussi, comme le théâtre dont je vous parlais. Donc,
Et c'est à ce moment-là qu'arrive aussi l'écriture des sonnets?
Non, il se libère, mais au moment des sonnets, il revient à une forme. Et donc d'autres poètes aussi de la même génération reviennent à il dit après une excursion au soleil de cette liberté, on revient à la forme, à la structure. Parce que Lorca regarde beaucoup et toute cette génération est complètement imprégnée de la poésie des 16e et 17e siècles. Or, il se trouve que, par exemple, moi, ma spécialité comme hispaniste, c'est plutôt le 16e et le 17e siècle. Donc là aussi, je fais un peu ce chemin-là.
Vous êtes retrouvé un petit peu chez vous en traduisant les sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca. Je voudrais qu'on écoute la voix de Vim, auditrice du Book Club. Elle a lu les sonnets et elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Liliane Selem et bonjour Bruno Doucet. Alors moi j'ai découvert Lorca par le biais du théâtre quand j'étais au lycée et je me suis intéressée plus tard à sa poésie. Et comme j'étais tombée amoureuse des sonnets de Shakespeare ou de la poésie de Keats, eh bien je suis tombée amoureuse des sonnets de l'amour obscur de Lorca. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de douleur, mais il y a aussi beaucoup de beauté. Notamment dans ce poème où il parle de la voix de son amour au téléphone, c'est absolument merveilleux. J'y reviens régulièrement et j'y trouve beaucoup de tristesse, bien sûr, mais aussi beaucoup de consolation. Déjà de savoir que Lorca, peut-être, ça l'a aidé à surmonter son chagrin d'écrire ses sonnets. Et donc, je voulais savoir si justement, vous aussi, vous pensiez que la poésie avait ce pouvoir consolateur. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup à vous, Vim, pour cette lecture et pour ces questions. Bruno Doucet, peut-être sur l'aspect chagriné, c'est une manière comme ça, très un euphémisme pour le dire, de ces poèmes d'amour, et sur l'idée qu'il y a dans leur lecture une sorte de puissance de consolation.
Oui, je crois que la poésie, c'est un exercice de consolation, à l'image de ce poème où il évoque son amant, son amour au téléphone. C'est formidable, hein, quand on songe.
Douce et lointaine voix par moi émise, douce et lointaine voix de moi aimée. Ouais.
Mais je crois que c'est l'écriture en elle-même qui porte une consolation et qui permet d'effacer à jamais, pour Lorca, la question de la solitude. En fait, quand Lorca écrit, il n'est jamais seul. Il faut imaginer qu'il y a à ses côtés, deux personnages invisibles. D'un côté, il y a un musicien, de l'autre, il y a un peintre, un dessinateur. Et au musicien, Lorca emprunte l'art de faire de la musique avec les mots, ces fameuses lignes mélodiques, ces harmoniques de la langue dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis au peintre, au dessinateur, eh bien, il le convoque, ce peintre, ce dessinateur, pour produire des images, créer des métaphores. Et vous.
Mais alors,
savez
justement,
que...
quel champ d'images et quel champ métaphorique sont utilisés dans ces poèmes d'amour qui nous permettent de dire que ce sont des poèmes d'amour tristes, mais aussi qui ont une puissance de consolation. Aline Amselem, vous dites pas triste.
Ben, pour moi, ces poèmes ne sont pas tristes. Ce sont des poèmes de désir, d'absence, oui. Et là, je rejoins Bruno. De l'absence, oui. Parce que, Lorca a écrit la plupart de ses poèmes quand il était à Valence en 1935, en novembre 1935, et qu'il attendait Rafael Rodríguez Rapun, un jeune homme avec qui il avait une relation amoureuse depuis plusieurs années. Et ce sont comme des lettres d'amour, comme de petites vignettes où il l'imagine. Et ce sont comme des petites scènes théâtrales qui sont introduites, comme avec le titre, par exemple, le poète.
Le poète demande à son amour qu'il lui écrive, plaie d'amour, sonnet de la douce plainte. Le poète dit la vérité. Le poète parle au téléphone avec son amour. Il y a aussi quelque chose de très concret, en fait.
Exactement. Donc, c'est à la fois très simple, mais non, ce ne sont pas des textes. En tout cas, moi, j'y vois pas tellement de douleur. Il y a l'évocation de baisers, de désirs, de contacts, et même certains poèmes. Enfin, il y en a un surtout qui est très érotique, mais où l'érotisme est caché.
Mais lequel? Parce qu'en effet, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'érotisme.
Il y en a un qui est très ardent.
C'est lequel?
C'est celui qui est le plus crypté. C'est celui qui est crypté, c'est celui le caractère crypté est indiqué par la référence à Góngora. Il dit, voilà, poème dans le style de Góngora. Il dit, voilà, je t'envoie une colombe. Je propose aux auditeurs de le lire en s'imaginant que c'est érotique.
Bruno Doucet, vous voulez réagir ?
Non, mais j'ai ce texte sous les yeux et je vois qu'il y a question des lauriers de Grèce. Alors, ça permet d'établir le lien avec le lieu où je me trouve en ce moment même. Non, mais ce texte est magnifique. Et c'est vrai, d'un érotisme un peu crypté, caché. Mais je crois que c'est ça, la poésie. C'est pas une exposition de soi, mais c'est une manière de se dissimuler, de se cacher derrière la polysémie des mots, derrière les métaphores et les images. Et puis, en même temps, on conjure l'absence, on révoque le manque. Et je trouve qu'il y a tout cela dans ces poèmes qui sont vraiment délicieux.
L'Inam Selem.
Vous voulez que je précise
pour pourquoi pas?
Ou si vous voulez autre chose, mais enfin, bon, en tout cas, je vous cite. Alors maintenant, imaginez que c'est érotique. Hein, donc ce pigeon que je t'envoie, donc dont les yeux sont doux et blanches les plumes, sur les lauriers de Grèce. Donc Grèce, c'est aussi une évocation d'une possibilité de liberté amoureuse homosexuelle. Et c'est pourquoi c'est le plus précis. Donc, sur les lauriers de Grèce verse en plus, lente flamme d'amour où je me vois. Sa candide vertu, son cou qui ploie, en double fleur de lys de chaude écume.
Oui, ok, ça y est, je commence à...
Et donc voilà, et tremblement de givre, perles et brume, l'absence de ta bouche me renvoie. Et donc après, ça devient un pigeon magique, une colombe magique. Passe ta main sur sa blanche clarté. Pour voir quelle neigeuse mélodie il répand en flocons sur ta beauté. N'est-ce pas ?
Ok, ça y est, je l'ai.
Voilà.
On écoute une archive rapidement, parce que ce serait dommage de ne pas le faire, de Dali. On est en 1965.
Il avait dit que l'Espagne se caractérise par deux inventions verticales, deux artefacts mécaniques. L'un, le sous-marin de Monturion, que c'est le premier sous-marin qui a navigué sous l'eau et qui a son monument dans ma ville natale. Et l'autre, l'hélicoptère. Peu de gens savent que l'hélicoptère aussi, c'est une invention espagnole. Et lui disait que grâce à ces deux inventions espagnoles, on pouvait passer directement des fonds abyssaux du subconscient humain et ténébreux de l'enfer. On pouvait passer directement, verticalement, au ciel grâce à l'hélicoptère. Non, mais c'est parce qu'au fond, je dois beaucoup de mes idées à cette espèce de masse confuse et grouillante, intégrale, qui était la poésie de García Lorca. Uniquement, moi, je les ai dépouillées, et comme que je suis légèrement phénicien, j'ai spéculé beaucoup sur des idées que lui les jetait d'une façon confuse, avec une générosité vraiment éblouissante.
Salvatore Dali, dans le Journal de Paris en 1965, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement, trop rapidement, de la rencontre entre Federico Garcia Lorca et Dali, l'Inam Selem, et ce que ça produit peut-être sur la poésie de Lorca ?
Alors, c'est une rencontre qui a été fondamentale, qui a eu lieu à Madrid quand ils étaient l'un et l'autre à la résidence des étudiants, qui a été un creuset pour cette génération de 27. Et Dali a poussé Lorca dans ses retranchements pour aller vers la modernité. Mais dans leur lien, il y avait tout un rêve métaphorique sur, par exemple, le Saint-Sébastien, sur plein d'éléments sur ce qu'ils appelaient los putrefactos, pour rejeter le caractère bourgeois d'une poésie trop traditionnelle. Enfin, un très grand enrichissement mutuel. C'était un feu d'artifice.
On entend aussi Dali parler de ces deux inventions là, le sous-marin, l'hélicoptère, l'idée de la verticalité, et je citais au tout début de cette deuxième partie d'émission l'idée que Lorca demandait que se dresse comme ça le champ vertical et ferme du poème. Il y a vraiment l'idée d'une verticalité comme ça à chaque fois. En quoi est-ce que c'est intéressant pour penser la poésie de Lorca ou pour penser les sonnets amoureux
en dehors de l'aspect érotique qui vous fait sourire.
Non, non, je ne pensais pas à ça, non. La verticalité, je n'ai pas pensé à de la verticalité, mais c'est vrai que, alors, ce qu'il y a dans la poésie de Lorca, je peux vous dire, dans l'intimité de la traduction, il y a très souvent un va-et-vient entre une anecdote ou une description, quelque chose, et puis on s'envole, on peut aller...
Oui, qui serait l'horizontale, on va dire, ouais.
Voilà, et de temps en temps, il y a un regard supérieur pour prendre de la distance et revenir ensuite. Une évocation du paysage ou la montagne ou un arbre ou un oiseau et on revient ensuite, on redescend. Ça, c'est vrai.
Le poète dit la vérité. Je veux pleurer ma peine et te le dis afin que toi tu m'aimes et tu me pleures avec un soir de rossignol chanteur, un poignard, des baisers et toi aussi. Je veux tuer qui est témoin unique en vue de l'assassinat de mes fleurs et transformer mes sanglots, mes sueurs, en un tas éternel de blé durci. Pour que jamais cet écheveau ne cesse, c'est je t'aime, tu m'aimes, feu gardé par un soleil flétri, la lune vieille. Car ce que nous n'aurons donné ni demandé sera pris par la mort qui rien ne laisse. Pas même une ombre à la chair agitée.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comme chaque lundi à cette heure-ci dans le Book Club, nous accueillons un ou une autrice à qui nous demandons de sortir un ou plusieurs livres de sa bibliothèque en écho avec un fait de l'actualité. C'est la chronique Lecture d'Actu de son petit nom. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous vous accueillons Diaty Diallo. Bonjour Diaty.
Bonjour.
Merci à vous d'accepter de vous prêter à ce jeu-là. Vous allez être avec nous pendant 6 semaines en résidence au Book Club. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes l'autrice d'un roman qu'on avait adoré, qui était paru au Seuil il y a 2 ans et qui s'appelle « Deux secondes ». D'air qui brûle. Alors pour cette première, toute première chronique, Diaty, avec quel livre êtes-vous venue au Book Club ?
Alors, déjà, moi je suis de nature plutôt indécise pour les décisions les plus simples de style Diaty, tu préfères pain au chocolat ou croissant. Donc j'ai un peu galéré pour cet exercice, mais j'ai bien réfléchi et j'ai quand même réussi à en trouver 3 que j'ai envie de vous présenter. Alors le premier, c'est pas de l'actu, mais il m'a vraiment marqué cette année. C'est un livre qui s'appelle Don't Call Us Dead. Ça donne quelque chose comme Ne nous traitez pas de mort en français. Et c'est un recueil de poèmes écrit par Danae Smith, une autrice de nationalité américaine. C'est un livre intense, politique, très politique, beau, étrange aussi, et que j'aime particulièrement. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que tout se passe d'abord dans le titre. C'est un titre qui est très puissant, qui montre en 4 mots la lutte pour pouvoir exister dans toute sa complexité quand on est une personne noire et qu'on doit faire face à une forme de morbidité politique qui fait que les assassinés, les victimes de violences d'État sont sans cesse résumées plutôt à leur mort et jamais à tout le reste de la vie qu'ils ont pourtant passé sur Terre. C'est pas encore en français, mais j'espère que ça le sera bientôt.
Et le deuxième livre, alors ?
Le deuxième, c'est un livre qui s'appelle « La parole aux négresses », donc ce coup-ci en français, de l'autrice féministe sénégalaise Awa Thiam, qui était devenue quasi impossible à trouver depuis 1978, sa publication initiale, avant d'être republiée par les éditions Divergence au printemps dernier.
Et qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre-là ?
Eh bien, c'est que le cœur de l'ouvrage soit vraiment dédié à la parole des femmes, la parole directe, qu'on entende leur voix, leur vie, leurs analyses, avant que ça débouche sur un cadre plus théorique. Moi, je trouve que les sciences humaines mettent pas souvent en avant le témoignage. Et de fait, les concernés sont souvent remplacés par du discours scientifique qui les met un peu à distance.
Et donc ici, pour vous, c'est pas le cas ?
Ben non, je trouve pas que ce soit le cas et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Et aussi, ce qui est à la fois heureux et malheureux, c'est que les réflexions que propose Awa Thiam et qui entourent la parole des femmes interrogées sont encore ultra d'actualité. Donc pour Lecture d'Actu, je trouvais que ça collait bien. Et j'en profite aussi pour remercier Mam Fatou Niang de nous l'avoir remis entre les mains, ce livre, introduit de ses mots à elle, parce que c'est vraiment un des plus beaux cadeaux féministes de 2024.
Donc si j'ai bien compris, c'est jamais 203 avec vous. Il va falloir qu'on règle ça un petit peu plus tard, mais on est parti pour un troisième.
Oui, vous m'avez bien cerné. J'ai quand même fini par me dire, bon, ça serait bien de terminer l'année sur une actu, quoi. Et en regardant mes rayons, je l'ai vu. C'est un de ces livres où pour moi, il y a un avant et un après. C'est Le triangle et l'hexagone de Maboula Soumaoro aux éditions de La Découverte. Et ça m'a paru évident et nécessaire de finir sur ça.
Pourquoi nécessaire ?
Parce que je pense, enfin j'espère que j'apprends rien à celles et ceux qui nous écoutent, mais il y a un mois, Maboula Soumaoro et son travail ont une fois de plus été la cible de l'extrême droite.
Donc je prends deux secondes pour préciser. Mabula Soumaoro est une autrice, chercheuse, docteure en civilisation du monde anglophone, spécialiste notamment des études africaines-américaines et des questions liées à la diaspora noire africaine. Et il y a un mois, une conférence autour de l'égalité et de l'inclusion au travail qu'elle devait donner pour les salariés du Parlement européen a été reportée.
Oui, tout à fait. Sous la pression d'eurodéputés d'extrême droite, et le Parlement leur a cédé et n'a pas su protéger son invité ni de cette attaque, ni de la campagne de cyberharcèlement qu'elle a subie suite à l'annonce du report. Et je trouve que c'est un événement qui permet aussi pas mal de mesurer les conséquences des dernières élections européennes.
Voilà, donc pour cette chronique, Diatti, on comprend, c'était important pour vous de terminer sur son livre, à elle.
Oui, hyper important. C'est un livre qui dit pour moi avec une grande clarté le racisme institutionnel ordinaire, la misogynie noire et tous les mécanismes invisibles qui entravent la pensée, l'art, précisément quand le geste provient de personnes dont une partie de la société a constamment peur que leurs idées se diffusent et qui fait donc tout pour les contenir à la marge. Donc franchement, faut le redire, trop tard les gars, à la Omar Sy, les livres on les a lus et certains, certaines peuvent continuer à mettre symboliquement le feu à la justice sociale et aux idées qui y conduisent, mais ils, elles, ne pourront jamais foutre le feu au cerveau ni au cœur qui en sont à l'origine. Donc venez, on fête la Saint-Sylvestre dans cette énergie en restant bien concentrés.
Un grand merci à vous, Diatti Diallo, pour cette première chronique lecture d'actualité, et à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. À lundi prochain. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue au grand jeu des pages musicales. Le principe est simple, on s'amuse à chercher de la musique dans les textes que nous lisons, que nous évoquons. On confie aussi parfois cette mission à nos auditeurs et auditrices. On est allé piocher dans le recueil Une colombe si belle, où vous recueillez aux éditions Bruno Doucet des poèmes en prose et autres textes de Federico Garcia Lorca, dans une traduction de Carole Filière. Avec le soleil nouveau, mon costume gris recouvrait l'argent de l'air humide. Le jour de printemps semblait une main alanguie sur un coussin. Dans la rue, les gens allaient et venaient. Vinrent les marchands de fruits et ceux qui vendent les poissons de la mer, pas un oiseau. Alors que tintaient mes bagues sur le fer du balcon, je cherchais la ville sur la carte et je vis comme elle demeurait endormie dans le jaune, entre de riches vénures d'eau distantes de la mer. Dans la cour, l'aubergiste et sa femme chantaient, un duo d'aubépines et de violettes. Leurs voix sombres, comme deux taupes en fuite, butaient contre les murs, sans trouver la sortie carrée vers le ciel. Avant de sortir pour ma première promenade, j'allais les saluer. Salam d'avoir été avec nous pour évoquer ces sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca qui sont publiés aux éditions Alia. Vous préfacez cette édition et vous traduisez. Voilà, c'est une édition que l'on peut lire en deux langues. Et puis on peut lire voilà, tout ce que vous avez traduit d'autres de Lorca aux éditions Alia et puis le livre dont vous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup Bruno Doucet d'avoir été avec nous depuis la Crète.
Merci à vous.
On peut lire les textes de Lorca que vous avez publiés aux éditions Bruno Doucet et les textes plus personnels, notamment la biographie. On mettra les références sur le site internet du Book Club. Au son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger avec Paul Guig et à la réalisation, c'était June Loper. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club que vous pouvez réécouter via l'application Radio France.